Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler inspiration et créativité. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan. Salut Adjan.
Salut Thibaut. Et oui, la dernière fois, j'avais parlé foot, puis on avait dit la prochaine fois, je parlerai musique. On n'est pas très loin, on est dans la création, on est dans la création même artistique, hein, bien souvent. Et donc ce matin, on va vous parler un peu des autres plateformes créatives qui peuvent exister. Et oui, tout ne se passe pas que sur Instagram.
Ouais, la créativité, ce n'est pas que sur Instagram et Pinterest, t'as raison. Figurez-vous même qu'il existe des réseaux sociaux de niche spécialement imaginés et nourris pour les créatifs, par les créatifs. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, sans doute moins de contenu parasite. Hein. T'auras pas de photos de ton petit cousin, par exemple. Plus de curation de qualité. Et puis surtout, des vrais talents créatifs, photographes, designers, illustrateurs, motion designers, etc. En tout cas, voilà la promesse de ces plateformes spécialisées. Et ce matin, on arrive avec 4 réseaux sociaux créatifs pour vous.
Ouais, comme tu le disais, je pense que c'est important de rappeler, c'est quasiment des plateformes professionnelles. Il n'y a pas de parasitage, il n'y a pas de photos de vacances à la plage. Il y a vraiment que du pro, de l'inspirationnel. Donc, quand on travaille dans des métiers qui ont des rapports avec ça, c'est des plateformes qui peuvent être ultra intéressantes.
Exactement. Allez, est-ce que tu veux commencer?
Allez, est-ce que je vais te demander qui commence? Moi, je vais commencer par vous présenter une plateforme qui s'appelle Behance en français. C'est une plateforme qui vous permet de présenter une sorte de portfolio si vous êtes un créatif. Donc, dessus, on retrouve tout ce qui touche à la création. La publicité, la mode, l'animation, l'architecture, le design et les concepts de production, la photographie, l'illustration, le graphisme. Donc, vous avez vraiment tout ce qui est dans la création visuelle qui existe dessus. C'est le premier réseau social créatif. C'est la plateforme où il faut être, quoi. Cette plateforme, elle a été créée en novembre 2005 par Mathias Correa et Scott Belsky. Et au fil des ans, le réseau, en fait, a tellement bien marché, c'est devenu tellement une référence pour tous les créatifs, et bah que c'est directement Adobe, hein, tout le monde connaît Adobe, qui a racheté la plateforme en 2012 pour la modique somme de 150 millions d'euros. Donc quand même, on voit le succès de cette plateforme. Alors, je vous expliquais un peu comment ça marche. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous créez un profil sur lequel vous pouvez créer des projets. Et ces projets vont réunis ensemble, vont former un portfolio. Les autres utilisateurs peuvent venir liker, commenter votre projet. Et les projets sont, c'est ça qui est intéressant, sont aussi accessibles pour des personnes n'étant pas inscrites sur Behance. Mais par contre, ces personnes qui ne sont pas inscrites ne peuvent pas liker ou commenter votre projet ou votre portfolio. Pour créer ces projets, vous pouvez même utiliser Adobe Portfolio qui vous permet de concevoir votre projet avant de le charger donc, sur Behance. Ça permet d'avoir des choses un peu personnalisées. Vous pouvez aussi suivre d'autres utilisateurs pour retrouver leur projet plus facilement. Et Behance, c'est un peu comme... ça fonctionne un peu comme Instagram pour un truc, c'est qu'il y a une espèce de page explorer, hein, mais comme la plupart des réseaux sociaux, et qui réunit les meilleurs projets de la plateforme. Donc, c'est un petit peu difficile quand on débarque sur Behance de se faire connaître, d'arriver à toucher du monde avec son projet.
Avec ses créas.
Mais au final, une fois qu'on arrive à avoir son petit réseau, qu'on commence à suivre quelques autres utilisateurs, ça permet de mettre en avant ce qu'on fait. Donc, clairement, c'est le premier réseau social créatif du monde. Donc, si vous êtes un créatif, vous devez être dessus. Et puis, l'objectif final, hein, c'est quand même de mettre en lien des créatifs avec des porteurs de projets, des entreprises, par exemple. Donc, vous montrez vos travaux sur Behance. Et puis, il y a une société qui est dessus et qui se dit, nous, on a besoin d'un mec pour nous faire cette campagne de pub ou pour nous faire ces créas-là. Et ben, on va aller le recruter directement sur Behance. Donc, ouais. Je vous invite à aller faire un tour sur cette appli.
Ce qui est génial aussi, hein, c'est la curation. T'as raison de le souligner, c'est la curation qui est faite quand on arrive sur la partie Explore de Behance. Là, on a quand même des créatifs géniaux. Puis surtout, ça donne une vraie vue des tendances visuelles, créatives, etc. Derrière, ce sont les équipes d'Adobe qui font la curation. Donc, c'est plutôt, plutôt de bonne facture. Mmh. Voilà, allez, juste si on devait citer un projet au milieu, moi, une petite pépite trouvée comme ça sur Behance, je parlerai d'Andrés Galardo Albayar. On vous mettra le lien en note de cet épisode, qui propose en fait, bah, c'est un photographe, c'est ultra quali, et il y a notamment un truc que j'adore, c'est comment ça s'appelle, des cartes postales aériennes. En fait, c'est des vues, vues de haut d'éléments architecturaux ou de paysages. Okay. C'est ultra graphique, très joli. Voilà, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour vous pour découvrir Behance.
Et puis, c'est vrai que quand vous êtes une société, même si vous ne voulez pas recruter directement quelqu'un, allez chercher un petit peu de l'inspiration quand vous travaillez dans des métiers un peu comme le nôtre sur cette plateforme. C'est toujours ultra utile.
Exactement. Allez, à moi de parler d'un autre, une autre plateforme sociale. Cette fois-ci, on est très proche de Behance, en tout cas c'est le même public, ça s'appelle Dribble avec 3B, alors pourquoi je sais pas, et ils ont un petit logo, c'est un ballon de basket rose, voilà, Dribble. Dribble, c'est vraiment une communauté de designers, c'est vraiment une application sociale, alors ça existe sous la forme d'un site web, mais aussi d'une application, et c'est une plateforme qui permet à des web designers, des graphistes, des illustrateurs, des typographes, des motion designers, etc., en gros tout l'écosystème créatif plutôt à vocation digitale, de partager et d'échanger sur leur création. C'est assez cool et ils ont une baseline historique qui est « What are you working on ?» Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ? Et c'est exactement le positionnement de Dribble. L'idée, c'est que les designers peuvent partager un travail qui est peut-être en cours, qui n'est pas forcément abouti, qui n'est pas forcément terminé, et puis échanger et se nourrir aussi des échanges qu'ils ont avec d'autres designers pour faire évoluer leur créa et faire un peu de la co-création. C'est assez cool comme principe. Et là-dessus, alors comment ça marche ? Tu as ce qu'on appelle sur Dribble des shots. Des shots, c'est on peut dire une première version de tes créas. C'est en général des versions non définitives. Et là, elles peuvent être commentées, likées, taguées, partagées. Donc là, on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités d'un réseau social. Et puis, c'est aussi évidemment un moyen de faire circuler son portfolio, comme sur Behance, où là, tu vas retrouver des portfolios ultra riches, ultra fournis, très complets. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur Dribble, c'est de façon à garder vraiment quelque chose de très quali, ça fonctionne par cooptation. Il faut une invitation pour pouvoir contribuer sur la plateforme Dribble. Ça a toujours été l'angle de Dribble, c'est-à-dire nous, on veut ça reste très quali et donc que la communauté soit exclusivement une communauté de créatifs, de créateurs de contenu. Et donc là, il y a trois niveaux d'inscription différentes sur le site. C'est bien expliqué dans la FAQ si vous allez jeter un coup d'œil. Tu vas avoir le player, qui est en gros le contributeur. C'est celui qui peut montrer ses work in progress. Il peut commenter, il peut liker. Tu as le spectateur qui, lui, ne peut pas poster, ne peut pas commenter, mais il peut follow, il peut suivre des créateurs. Et puis, tu as le prospect, c'est comme ça que ça s'appelle sur Dribble, qui, lui, est spectateur et attend qu'on l'invite sur la plateforme. Voilà, c'est assez intéressant, allez voir ça, et surtout c'est une mine de contenu, c'est ultra riche, c'est ultra cool, c'est peut-être à différence de Behance, c'est plus appliqué au digital, donc c'est intéressant quand on souhaite peut-être se nourrir et puis trouver de l'inspiration quand on est social media manager ou content manager. Allez, quelques trouvailles que j'ai pu faire en chemin que je vous mets en note de ce podcast. Tu as Anna Mimino Shlivi, c'est une géorgienne, elle est illustratrice freelance, elle a 25 500 followers, donc autant dire qu'elle pèse quand même assez fort sur Dribble, et je trouve ses créas, ses illustrations vraiment magnifiques, c'est très joli, et il y a tout un travail notamment autour du timbre, avec le timbre, tu as des lieux géographiques dedans, les illustrations sont très très belles, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Autre designer à suivre, Anvesh Duna, lui c'est un indien et c'est un designer qui travaille autour des jeux de typographie en 3D. C'est très très créatif, c'est très très chouette et il y a sans doute des choses qui doivent vous permettre de nourrir vos créations de contenu. Voilà, c'était mes deux petits coups de cœur trouvés sur Dribble.
Cool, bah, vous l'avez compris, Dribble c'est un petit peu le concurrent de Behance, donc vous avez là deux déjà très beaux outils et plateformes pour aller faire un peu de curation et regarder un petit peu ce qui se fait. Moi je vais vous parler maintenant d'une plateforme qui est encore un petit peu différente, cette plateforme s'appelle Hello. E2LO, c'est une plateforme d'artistes pour des artistes, c'est comme ça qu'ils se définissent. Et mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'en fait, en 2014, Elo a fait un beau buzz, puisqu'il a été lancé en mars 2014. Et en fait, à ce moment-là, quand il est lancé un peu publiquement, c'est l'opposant de Facebook, une sorte de contre-pouvoir des réseaux sociaux. En tout cas, c'est la place que Elo a envie de prendre. À l'époque, Elo, en même temps que la plateforme est lancée, sort un manifeste qui dit, je vais vous lire ça, votre réseau social est détenu par les publicitaires. Chaque post partagé, chaque nouvel ami, tous les liens sur lesquels vous cliquez sont tracés, enregistrés et convertis en données. Les publicitaires achètent vos données afin de vous montrer plus de réclames. Vous êtes le produit acheté et vendu. Nous pensons qu'il existe une meilleure voie. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le game du réseau social, Elo. Donc, autant vous dire qu'ils sont arrivés les deux pieds en avant, les deux pieds dedans. Et ça a fonctionné, en fait, au début. Parce que Elo, avec ses grandes phrases anti-Facebook, tout simplement à l'époque est passé de 30 000 utilisateurs à 3 millions en très 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 peu de temps. Et c'est un peu éloigné de ce pourquoi était fait la plateforme à la base. Parce qu'à la base déjà c'était une plateforme fermée, une espèce de bande de copains qui s'était monté une plateforme avec c'était des potes artistes avec leur projet, leur portfolio, effectivement un peu comme pour les deux autres plateformes dont on vient de parler. Et ils sont ouverts et puis voilà, ils sont arrivés avec ce côté un peu décalé, anti-Facebook, un peu anti-capitaliste et ça a cartonné, sauf que ça a perdu un peu de son essence de base. Et c'est pour ça que dans les années qu'on suivit entre 2014 et 2016, ils ont essayé de recentrer tout ça vers quelque chose de plus artistique. Aujourd'hui, c'est plus le buzz de l'époque, il y a un peu moins de monde peut-être dessus, mais ça reste un outil de curation, en tout cas pour les gens qui sont passionnés d'art, qui est vraiment ultra efficace. On y trouve plein de choses ultra belles et c'est une plateforme qui met aussi en contact les sociétés avec des créateurs. On est un petit peu sur quelque chose de plus arty, c'est le concurrent arty hein, de Pinterest, Behance ou Dribbble. C'est un petit peu différent, mais on reste dans un fonctionnement qui est assez similaire.
Ouais, donc voilà, ça c'est Elo, effectivement. Alors pour moi, c'est un peu le Etsy de ces plateformes créatives. C'est vrai que c'est un petit peu plus pêle-mêle. Tu vas avoir au milieu eh bien, des choses très makers. Et je trouve que c'est là-dessus que c'est intéressant, où tu vas avoir des céramistes, des gens qui travaillent le bois. Tu vas aller jusqu'à là, donc t'es pas forcément...
Très artisan aussi, ouais.
Ouais, très artisanat d'art, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant aussi si on souhaite se nourrir. Évidemment, il y a un énorme pendant sur l'illustration, la photographie, etc. Mais on trouve même des choses ayant attrait à la musique. Donc c'est assez marrant, c'est très effectivement très artistique. Allez, à moi de terminer avec ce quatrième réseau pour nourrir votre créativité. Et ben, on va parler de 500px, ça fait un peu scooter
Vespa.
Ouais,
c'est ce que j'allais dire, c'est pas un truc de Vespa, t'es sûr.
Ouais, donc c'est pas un scooter Vespa, c'est vraiment une plateforme, c'est un site web communautaire de partage de photographie. Là, on est vraiment sur la photo, ça vient du Canada initialement. Et là, c'est intéressant, un peu comme Elo a une histoire avant de se transformer en réseau social. Eh bien, 500px aussi, puisqu'avant, c'était un blog. Hein. C'était un blog qui a été lancé en 2003 avec, à l'époque, dans ce blog, une taille limite des photos qui était de 500 pixels de largeur. Hein. En 2003, ça faisait déjà des grandes images en 2003. D'où le nom 500 pixels. Forcément, depuis, eh bien, ça a bien changé. Hein. Il y a bien plus de pixels que ça. Sauf que le nom est resté. Et donc, ce truc s'est créé en 2003, ça forme d'un blog. Et puis en juillet 2015, 500px lève quand même 13 millions de dollars et devient une application social media, une vraie application réseau social qui a pour objet eh bien, d'être un lieu d'exposition, d'inspiration et puis de connexion aussi entre photographes, entre pairs photographes. Comment ça marche ? Je trouve que c'est très intéressant 500px. On est très proche du fonctionnement d'Instagram à quelques subtilités près. Alors, je dis qu'on est proche parce que tu envoies des photos, tu ajoutes une description, tu as des tags, tu peux classer tes contenus par catégorie. Ça, c'est peut-être ce qui est différent d'Instagram. Et puis, côté fonctionnalité social media, pareil, tu peux liker, commenter, partager, envoyer des MP à un photographe. C'est très, très proche sur les aspects sociaux. Mais ce qui est différent, c'est l'algorithme. Et l'algorithme de 500px, je le trouve intéressant. Parce qu'il y a une mise en avant plus poussée des contenus récents, ça c'est la première chose. Donc tu as une sorte de certitude, c'est que tu vas très vite te retrouver dans quelque chose Ou toi, quand tu es créatif, quand tu es créateur de contenu, tu sais que tu as moins de risques d'avoir des contenus qui passent à la trappe comme sur Instagram. En général, tes contenus remontent bien. Et puis ensuite, chaque photo a une sorte de score algorithmique qui s'appelle Pulse. Ça s'appelle Pulse sur 500px. Et plus cette note est élevée, et plus l'application va pousser le contenu dans sa fonction Discover, dans sa fonction de découverte. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est très transparent. Tu le vois, on rêverait de ça sur Instagram. Pourquoi certains contenus
oui, parce que là, plus... il te donne ton pulse,
il te donne ton scoring par photo, donc ça c'est intéressant parce que tu vois ce qui marche ou ce qui marche pas dans la plateforme. Et puis allez, pareil pour rester sur les vanity metrics, ce qui est intéressant c'est que le fonctionnement du classement de popularité, il est là aussi plus riche qu'Instagram. Chaque utilisateur possède une note qu'on appelle affection et elle prend en compte les likes et les favoris reçus à travers l'intégralité de tes photos, donc pas exclusivement ton nombre de followers, mais comment ton contenu est perçu, reçu, engage l'intégralité de la plateforme. Et donc, plus ce score-là est élevé, plus ton contenu a des chances de remonter dans les fonctions de découverte. Et justement, la partie découverte de l'application, elle est ultra cool. Tu as vraiment un contenu de très grande qualité. Et je vais notamment souligner la partie Editor's Choice, hein, qui est, comme tu as sur Behance, les équipes d'Adobe qui vont remonter du contenu. Ben là, tu as la même chose sur 500px, où vraisemblablement, tu as une équipe d'experts spécialisés et passionnés qui va vraiment chercher des créateurs de contenu, des photographes qui ne sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément énormément de followers, mais qui apportent vraiment beaucoup. Et ça permet de découvrir des nouveaux talents. C'est très, très cool. Alors, dans les talents que moi, j'ai découverts, j'en ai découvert un qui est assez connu, qui s'appelle William Cass. Hein. Il est connu parce qu'il y a 59 000 personnes qui le suivent sur 500px. Et sans doute que vous êtes déjà tombé sur ses contenus. C'est un photographe qui met en scène des personnages miniatures dans des mises en scène surréalistes. Tu vois, il va prendre des petits bonhommes, il va les mettre sur un fromage et ça raconte une histoire sur la Lune, par exemple. C'est vachement cool, c'est très bien réalisé. Et puis dans les trucs qui sont des trouvailles un petit peu plus méconnues, je suis tombé sur Yuzuke Komatsu, 697 followers, et là c'est un photographe japonais qui offre des photos à tomber par terre du Japon de tous les jours. On est vraiment dans le Japan Daily Life, c'est superbe, et ça c'est ce que te permet 500px, c'est tomber sur des photographes comme ça qui sont méconnus et qui ont un vrai talent. C'est à découvrir. On vous met évidemment les notes dans les notes du podcast. Pardon.
Petite question piège, Thibaut, à 1 000 $. Si toi, aujourd'hui, tu étais un jeune créatif, sur quelle plateforme tu irais dans les 4 qu'on vient de présenter?
Eh bien, en fait, ça, je dirais que ça dépend de ce que je souhaite faire. Si c'est pour me faire connaître, je pense que Behance, c'est le bon endroit. Ouais. Voilà, c'est le bon endroit parce qu'effectivement, il y a une grosse communauté. C'est cool pour travailler ton portfolio. Tu peux vraiment monter un beau portfolio là-dessus. Si c'est pour me nourrir, peut-être que j'irai ailleurs. Et notamment, si je suis un photographe, je pense que 500px, c'est un passage obligatoire. Et Dribbble, sans doute, est un super endroit pour se nourrir aussi des feedbacks de la communauté. C'est ça que te permet Dribbble. C'est d'avoir des pairs qui rebondissent sur tes créas et potentiellement peuvent te donner des bons insights et te faire évoluer tes créas. Hein, tu as même sur Dribbble un versioning, c'est-à-dire que tu fais évoluer ta créa en fonction des retours. Oui. Donc ça, je trouve que c'est très, très cool. Donc, je dirais, pour me faire connaître, je pense que Behance, c'est un inconditionnel. Et puis, si c'est pour me nourrir, 500px, c'est ultra cool. Et Dribbble aussi.
OK. Bah, venez nous dire, vous aussi, sur les réseaux @supernatif, Twitter, Instagram, LinkedIn ou Facebook, quelle est la plateforme sur laquelle vous iriez, quelle est la plateforme sur laquelle vous êtes, peut-être. Venez en parler avec nous. On est curieux de savoir tout ça. Et puis... parlez-en autour de vous de ce podcast. Vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, Apple Podcast par exemple. Donc, laissez-nous une petite note avec un nombre d'étoiles. Là, vous nous en mettez le maximum.
Et allez, vous balancez les 5 étoiles.
On
n'en
parle plus. On n'en parle plus. Allez.
Voilà, merci à vous tous. On vous souhaite une très, très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain.
Ciao, ciao.
Salut.